aujourd'hui à Washington.
Tatiana Mosso en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Il est 19h30 en temps universel et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de ce lundi 8 mai 2017. En Côte d'Ivoire, les ex-combattants démobilisés des forces nouvelles ont paralysé Boaké. Au Burkina Faso, le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a repris devant la Haute Cour de justice, mais les avocats à la défense ont quitté la salle d'audience. Et puis en France, Emmanuel Macron, élu avec 66% des voix, se lance dans la bataille cruciale des législatives le mois prochain. Il a besoin d'une majorité claire à l'Assemblée. Et puis ne manquez pas dans cette édition votre rendez-vous avec les sports et la Minute Éco, bien sûr. Nous ouvrons ce journal avec la Côte d'Ivoire. L'entrée sud de la ville de Boaké a été fermée tôt lundi par un groupe d'ex-combattants démobilisés issus de l'ex-rébellion armée du pays. Après plusieurs heures de manifestation, le corridor a été ouvert en début d'après-midi à la circulation après un début de négociation entre les autorités préfectorales et les ex-combattants. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Plusieurs centaines d'anciens rebelles démobilisés ont bloqué le corridor sud de Boaké dans le centre du pays. Ces ex-combattants réclament des paiements de primes au Comore de 12 millions de francs CFA et des aérés de primes de grade de caporal de 2007 à 2011. Des négociations entre les autorités préfectorales ont débuté peu après 11h GMT à Boaké. Les discussions ont été suspendues et devraient reprendre dans les jours à venir. Il faut aussi noter que le mouvement avait gagné la veto dînée dans le nord-ouest du pays. En janvier, le pays a été secoué par une vague de contestations militaires et civiles où le gouvernement ivoirien avait promis reverser la somme de 12 millions de francs CFA à quelques 8 500 mutins issus de l'ex-rébellion ivoirienne. Une mutinerie qui avait enregistré au moins 2 morts dans ce pays. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Et en Côte d'Ivoire, toujours, des organisations professionnelles ont critiqué lundi une nouvelle loi sur la presse qui a été adoptée en commission et devrait être votée prochainement par l'Assemblée nationale ivoirienne. Le nouveau texte adopté en commission prévoit un emprisonnement d'un à cinq ans. Quiconque, par voie de presse, incite à la xénophobie, à la rébellion ou porte atteinte à l'intégrité du territoire national. Une dizaine d'organisations professionnelles, dont l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, ont marqué leur ferme opposition à ce texte qualifié de liberticide, répressive et totalement aux antipodes de la modernité. Au Burkina Faso, voisin, le procès devant la Haute Cour de justice des 34 ministres du dernier gouvernement du président burkinabé pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire en octobre 2014 a donné lieu à un coup de théâtre lundi avec le départ des avocats de la défense. Bagassi Koura.
La quinzaine d'avocats défendant les 32 ministres du dernier gouvernement du président Blaise Compaoré ont quitté le tribunal ce lundi. Ils sont jugés devant la Haute Cour de justice pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les avocats rejettent la Haute Cour, arguant que ces verdicts ne peuvent faire l'objet d'aucun appel alors que toute décision de justice doit pouvoir être contestée au moins une fois. Créée en 1995 sous le régime de Blaise Compaoré, dont elle s'apprête à juger le dernier gouvernement, la Haute Cour de justice est restée inactive jusque-là. Elle est la seule juridiction habilitée à juger le chef de l'État et des ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Plusieurs spectateurs ont applaudi les avocats alors qu'ils quittaient la salle. Le président a suspendu l'audience qui devrait reprendre le 15 mai prochain.
Deux soldats congolais ont été tués lundi dans une attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Les FDLR sont des rebelles hutus rwandais opposés au régime de Kigali. Ils sont restés très actifs dans l'est du pays depuis la fin du génocide au Rwanda. En Guinée, deux blessés dans la collision survenue samedi entre un camion et un minibus au nord de Conakry sont décédés. Une source hospitalière porte le bilan à 23 morts. Cet accident est survenu près de d'Oubreka, à environ 50 km de la capitale. Le minibus bondé a été écrasé par le camion dont la benne était remplie de sable au moment de la catastrophe. L'ex-otage français libéré samedi au Soudan après son enlèvement en mars au Tchad est arrivé lundi à N'Djamena, alors que les autorités tchadiennes affirment que ses quatre ravisseurs ont été arrêtés. Au moins 6 personnes ont été tuées, une dizaine de blessés lundi après-midi dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. La voiture piégée a explosé à proximité immédiate d'un café italien situé dans une artère très fréquentée du centre-ville, menant au palais présidentiel. Et puis la guerre civile a forcé plus d'un million d'enfants à fuir le Soudan du Sud et en a déraciné 1,4 million d'autres à l'intérieur du pays. Selon les agences de l'ONU, ils ont fui leur pays pour gagner des camps de réfugiés en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda voisins depuis le début du conflit fin 2013. Et puis l'armée de l'air égyptienne a bombardé et détruit 15 véhicules transportant des armes et des munitions qui ont traversé illégalement la frontière en provenance de la Libye. C'est ce qu'a indiqué un responsable militaire. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a annoncé la mort lundi dans le sud de l'Égypte de 8 terroristes, membres de groupuscules planifiant des attaques contre les institutions publiques, tués lors d'un échange de tirs avec la police. Enfin, au moins 11 migrants sont morts et plus de 230 autres sont portés disparus après 2 naufrages au large de la Libye. C'est ce qu'ont rapporté lundi la marine libyenne et des organisations internationales, citant des survivants. Les corps de 10 femmes et d'un enfant ont été découverts lundi sur une plage de Zawiya, à 50 km à l'ouest de Tripoli, selon un responsable du Croissant Rouge libyen qui n'a pas donné davantage de détails. On ignorait notamment si ces personnes étaient à bord d'une embarcation qui a récemment chaviré au large de Zawiya.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité internationale, élections françaises oblige, nous parlons de Emmanuel Macron, le centriste pro-européen qui a remporté une large victoire hier à la présidentielle avec 66,10% des voix. La passation de pouvoir avec François Hollande aura lieu dimanche 14 mai. Les élections législatives sont prévues le mois prochain et c'est un défi pour le président élu, Anastasie Tudiech.
Pour gouverner, le président Emmanuel Macron, qui va prêter serment le 14 de ce mois, aura besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Il a fondé il y a un peu plus d'un an le mouvement En Marche, qui se veut différent des partis politiques traditionnels. Des personnalités de gauche et de droite comptent se présenter aux législatives des 11 et 18 juin sous l'étiquette majorité présidentielle, une situation inédite car des personnalités aux sensibilités parfois disparates vont devoir cohabiter. Dans les prochains jours, Emmanuel Macron doit dévoiler le nom de son Premier ministre et la composition du futur gouvernement avant de chercher à obtenir une majorité aux législatives du mois prochain.
Et puis sachez que le secrétaire général de l'ONU a félicité lundi Emmanuel Macron pour sa victoire lors de l'élection présidentielle en France et a dit espérer pouvoir le rencontrer bientôt. La France est un partenaire hautement apprécié de cette organisation, a souligné le porte-parole du chef de l'ONU, Stéphane Dujarric. Après avoir essuyé en février et mars de retentissants défaites judiciaires sur son décret migratoire, dont 2 versions ont été bloquées par les tribunaux, Donald Trump compte obtenir sa revanche en appel. Ainsi que le prévoit le découpage juridictionnel compliqué des États-Unis. C'est à Richmond, capitale de la Virginie, que ce dossier opposant le gouvernement à des associations qui affirment que ce texte vise de façon discriminatoire les musulmans. Étant donné l'importance et la sensibilité de l'affaire, il a été décidé que la Cour fédérale siégerait directement en plénière avec l'ensemble de ses juges actifs du jamais vu depuis un quart de siècle. Et toujours dans l'actualité internationale, le gouvernement afghan et l'armée américaine ont confirmé le 7 mai au soir la mort le 27 avril d'Abdul Hazib, chef de la branche locale de Daesh, lors d'une opération conjointe dans l'est de l'Afghanistan. Les précisions de Salwa Jafari.
Mohamed Ramdanish, porte-parole adjoint du ministère afghan de la Défense, l'a confirmé. Abdul Hassib, chef de la branche locale du groupe djihadiste, a trouvé la mort lors d'une opération conjointe dans le Nangar, dans l'est du pays.
Beaucoup de membres du groupe de l'État islamique ont été tués par le commandement de la coalition et l'armée nationale. Abdul Hassib, le chef de ce groupe terroriste, était également parmi eux.
Il avait pris la direction du groupe en juillet 2016 à la mort de son prédécesseur, Hafiz Saïd, tué dans un bombardement américain. Le Pentagone a affirmé que plusieurs autres responsables de haut rang de Daesh ont également été tués, ainsi que 35 combattants. Deux soldats américains ont également trouvé la mort dans l'opération. L'armée américaine affirme que plus de 500 combattants ont été tués depuis début mars.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de la Minute Écho avec cette semaine Jacques Aristide.
Le Fonds monétaire international vient d'approuver un programme de près de 241 millions de dollars au Togo afin d'aider le pays à redresser ses finances publiques. Un premier prêt de 34,5 millions a été immédiatement débloqué en faveur des autorités de Lomé. Le versement des autres tranches de ce programme, étalé sur 3 ans, sera conditionné à l'application d'une série de réformes économiques. Plusieurs pays d'Afrique francophone ont récemment fait appel au FMI, notamment pour faire face à l'impact de la chute des cours des matières premières sur fond de rumeurs de dévaluation du franc CFA. Le Parlement égyptien a approuvé une loi sur les investissements qui prévoit notamment de faciliter les démarches des entreprises au moment où les autorités veulent attirer les investisseurs étrangers pour relancer une économie en crise. L'Égypte a connu une forte chute des revenus du tourisme. Le texte prévoit des exemptions fiscales pouvant aller jusqu'à 50% pour les investissements dans les régions les plus défavorisées. Au Mozambique, les habitants de Palma, un village de pêcheurs, réclament que le projet gazier du fleuve Rovuma démarre le plus tôt en 2010. Des réserves estimées à 5000 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été découvertes dans cette partie nord du pays, les plus riches découvertes sur la planète depuis longtemps, pouvant hisser l'un des pays les plus pauvres du continent africain au rang de 3e producteur mondial de gaz naturel liquéfié, annoncé pour 2016. Les exportations ont été reportées à 2022 ou 2023 en raison de la chute des cours des hydrocarbures.
Et on retrouve tout de suite les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Tatiana, bonsoir à tous.
Premier comité exécutif de la Confédération africaine de football de l'ère Ahmad.
Le nouveau président malgache de la CAF est à Bahreïn avec les dirigeants de la Confédération africaine au menu des discussions qui se sont ouvertes ce lundi. Comment transformer la CAF pour les 4 prochaines années? La CAF va aussi se pencher sur la plainte déposée en Égypte contre le contrat des droits TV et marketing qui avait été passé avec le groupe Lagardère, on s'en souvient, sous la présidence d'Issa Hayatou. Affaire à suivre.
Jeudi, ce sera le congrès de la FIFA, toujours à Bahreïn.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, affirme que les finances de l'instance internationale de football sont extrêmement solides et ce, malgré des pertes de 369 millions de dollars. Déclaration faite au cours d'un discours prononcé devant le congrès de la Confédération Asiatique de Football, toujours à Bahreïn. La FIFA avait indiqué auparavant que ses résultats pourraient se dégrader au cours de l'année, mais rebondir en 2018 pour atteindre un bénéfice d'un milliard de dollars, grâce notamment aux droits télé de la prochaine Coupe du Monde en Russie.
Demain, demi-finale, retour de la Ligue des Champions, mission impossible pour Monaco ?
La Juventus qui ne craque jamais contre les clubs français, la Juventus qui ne prend pas de but et qui n'a plus perdu à Turin depuis 20 mois. Seul un colossal exploit demain enverrait Monaco en finale de la Ligue des Champions. Ça va être dur, le coup d'envoi 18h45, temps universel. On se souvient qu'à l'aller, les Italiens l'avaient emporté 2-0 au Stade Louis II.
Football toujours, mais de sable avec le mondial de beach soccer remporté par le Brésil.
Exactement, et les Brésiliens ont été sans pitié face à Tahiti. Victoire 6-0, le Brésil qui remporte ainsi sa 5e Coupe du Monde de la discipline. Pour la petite finale, l'Iran termine 3e grâce à son succès 5-3 devant l'Italie.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
Comme en 2016, les Cavaliers ont négocié leurs 2 premiers tours des playoffs sans perdre un seul match. Ce n'était pas une formalité, il a fallu aller la chercher cette qualification assure King James, LeBron James, le joueur de Cleveland, après la quatrième victoire de son équipe sur le parquet des Raptors de Toronto, 109 à 102. Les Cavaliers qui vont pouvoir tranquillement attendre leurs prochains adversaires, les Celtics de Boston ou les Wizards de Washington. Les deux équipes sont à 2 victoires chacune. Le duel entre San Antonio et Houston est aussi très serré, 2 victoires chacune, après la nette victoire des Houston Rockets dans leur salle, 125 à 104.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous Tatiana Mosso. Place à nos dossiers du jour et on prend la direction de la Côte d'Ivoire. Une centaine d'anciens rebelles démobilisés ont bloqué ce matin l'accès du sud de Boaké. Après plusieurs mutineries, le gouvernement avait cédé et a satisfait en partie les revendications de primes de quelques 8500 anciens rebelles intégrés dans l'armée. Les démobilisés, à leur tour, veulent une part du gâteau. Solange Nyamulisa a joint le docteur Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Depuis la fin de la guerre, il y a plusieurs projets de DDR, de mobilisation, désarmement et réinsertion qui ont été mis en place. Certains qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont eu. Et deuxième chose, par rapport aux revendications des mutins du début de l'année, ceux qui ont quitté l'armée se sont un peu frustrés de voir que les anciens avec qui ils ont combattu ont eu des primes de près de plus de 5 millions. En plus, sont encore payés tous les mois par l'État de Côte d'Ivoire, alors qu'eux qui ont combattu comme eux dans la première partie de la guerre ne sont pas pris en considération. Je pense que ces éléments de frustration peuvent expliquer en partie le fait que les démobilisés se rébellent aujourd'hui.
Comment expliquer que ces démobilisés sans armes puissent bloquer l'entrée de Boaké?
Il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas d'armes dans la ville. Mais maintenant, est-ce que derrière, ils n'ont pas des armes cachées? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ils n'ont pas des soutiens même au sein des soldats qui sont à Boaké? C'est d'autres questions qu'il faut se poser. Sinon, aujourd'hui, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas d'armes dans la ville.
Que peut faire le gouvernement?
Je pense que le gouvernement doit montrer de la fermeté maintenant. La Côte d'Ivoire elle-même, par la chute des cours du cacao, qui sont passés de 1100 francs CFA le cours, le prix du kilo, donc un peu plus de 2 $ à 700 francs CFA, donc un peu plus de 1,5 $. La Côte d'Ivoire elle-même n'a plus autant d'argent que les années passées. Et puis, il faut faire des investissements dans l'éducation et dans la santé. Donc, le gouvernement ne veut plus se permettre de brader et d'offrir de l'argent à tous ceux qui tirent une fois dans l'air. Donc, il faut expliquer les choses avec fermeté et s'assurer que les démobilisés qui devaient bénéficier du DDR ont vraiment bénéficié de ça. Et puis, trouver des problèmes à la question du chômage de façon générale à tous les jeunes Ivoiriens, y compris les démobilisés, voire au-delà.
Mais tout ceci n'est pas révélateur d'un malaise au niveau de l'armée?
Si, il y a forcément un malaise parce que ces démobilisés ont forcément des connexions avec des anciens mutins. Et certaines sources même disent que ce sont des anciens mutins qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas reçu tout ce que leur a promis le gouvernement qui essaie de manipuler ces démobilisés-là. C'est clair que ça montre un certain malaise, certains problèmes de cohésion dans l'armée ivoirienne aujourd'hui. On remarque depuis le début de l'année entre, d'une part, les soldats issus des forces armées des forces nouvelles ont du mal à s'inscrire dans une logique de soldats républicains.
C'était le docteur Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Retour sur la libération de 82 jeunes filles enlevées il y a 3 ans à Chibok, dans le nord du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari les a accueillies hier soir à Abuja, la capitale. Reportage de Zlatika Hogue, présenté par Moran Gueriek.
Les 82 jeunes filles ont retrouvé la liberté samedi, à l'issue de longues négociations qui ont débouché sur un échange contre des détenus membres présumés de Boko Haram. Elles ont d'abord été escortées vers une base militaire de Banki, près de la frontière avec le Cameroun, puis transportées à Abuja après un examen médical. Le président Buhari a retardé un voyage à Londres pour des raisons médicales afin de les accueillir. Au nom de tous les Nigérians, je voudrais partager ma joie joie avec vous, vos parents, vos proches, vos amis et le gouvernement de l'État de Borno de vous voir enfin libre, a déclaré le président Buhari via Facebook. Une des filles avait un bras cassé et une autre était blessée à la jambe. Elles avaient l'air épuisées. Leur vie en captivité a été pleine de souffrances. Elles ont été affamées, maltraitées. Comme nous l'avons déjà vu, certaines de ces filles sont revenues avec des enfants. Et certaines témoignent des violences sexuelles dont elles ont été victimes. Au total, 276 jeunes filles ont été kidnappées en avril 2014 alors qu'elles dormaient dans une école de Chibok dans l'état de Borno. Leurs parents et des militants se sont mobilisés pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il augmente les efforts pour les retrouver. En octobre, une vingtaine d'entre elles avaient été libérées. Les 113 jeunes filles qui sont encore en captivité doivent être prises en compte. Il faut que la lutte continue. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'en avoir retrouvé 82. Au total, 106 ont été sauvées et nous continuerons à exiger qu'elles soient toutes ramenées à la maison. Environ 15 000 personnes ont été tuées pendant l'insurrection de Boko Haram qui veut créer un califat islamiste dans le nord-est du pays. Plus de 2 millions de personnes ont fui les violences en 7 années de conflit.
En Algérie, l'élection d'Emmanuel Macron a été très bien accueillie lors de sa campagne. Le candidat du mouvement En Marche, alors en déplacement dans le pays, avait publiquement condamné la colonisation. Emmanuel Macron avait assuré qu'il prendrait des actes forts au sujet de la reconnaissance des massacres de l'Est algérien le 8 mai 1945. Pour savoir comment les Algériens ont réagi, Claire Morin-Gébour a joint notre correspondant Brahim Takarhoub.
La presse algérienne a été très positive en apprenant la nouvelle de l'élection d'Emmanuel Macron. Elle en a fait, comme on dit dans le jargon journalistique, ses choux gras, parce que c'est important pour les Algériens. Donc ils ont restitué un peu cette satisfaction des Algériens par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc, globalement, toute la presse algérienne en a fait état.
Au niveau politique également, quelles ont été les réactions? Le président Bouteflika l'a déjà félicité.
Effectivement, au plan politique, le président de la République l'a déjà félicité. Il a même esquivé un peu ce que seront les relations entre Alger et Paris, évoquant le partenariat d'exception entre les deux pays, en parlant d'ouverture de nouveaux horizons et des promesses d'une mémoire assumée dans toute sa vérité et son intégrité, d'une amitié entre les deux peuples. Vous savez, entre l'Algérie et la France, il y a quand même une communauté très très forte, dépassant les 3 millions. Donc le président Bouteflika, dans son message de félicitations au nouveau président français, il a parlé de la mémoire, des relations apaisées, d'un avenir prometteur, et de cette communauté qui est pour le président algérien, un ressort humain précieux à honorer et à préserver. Voilà, donc il a effectivement très, très chaleureusement félicité.
Alors il faut dire que Emmanuel Macron n'a pas été un candidat comme les autres puisqu'il s'est prononcé sur les crimes de la colonisation.
Il n'est pas comme les autres effectivement parce qu'il est venu en Algérie là, en quelque sorte décomplexer la question de la mémoire. Disons clairement que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Effectivement, les Algériens attendent ce geste, mais Emmanuel Macron s'est débarrassé du boulet de la mémoire. Vous savez, entre Alger et Paris, toutes les analyses, toutes les démarches ne sont pas torpillées, elles sont souvent polluées du fait qu'elles soient regardées par le prisme de la mémoire. Et donc, lui, ce qu'il annonce comme démarche, c'est que les choses vont aller autrement. C'est-à-dire que son passion, son ressentiment, c'est qu'on va voir les dossiers de manière apaisée et sereine. Et c'est ce qui est important. Quand il y a du recul, il y a une vision sereine, une vision apaisée, pas passionnelle. Et c'est plus intéressant, c'est plus important. Je pense que c'est ce qui importe le plus, aussi bien pour les Algériens que pour les Français.
C'était Brahim Takarhoub, notre correspondant en Algérie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La province du Nord Kivu produit chaque année 1 million de tonnes de cassitérite, soit 80 à 90 000 tonnes par mois. Pour moderniser et doubler la production, le gouvernement congolais vient d'opter pour industrialiser le secteur dans différents sites miniers déjà certifiés, non liés aux conflits armés. Malheureusement, cette mutation vers l'industriel laisse sur le carreau plus de 10 000 creuseurs artisanaux qui travaillaient sur ces sites miniers depuis plusieurs années, à l'ouest de Goma notamment. C'est un reportage signé Charlie Kassereka.
Pour M. Hamza Tinema, l'un des responsables d'une coopérative regroupant plus de 18 000 creuseurs artisanaux, s'inquiète de la situation actuelle de ces jeunes qui n'ont plus d'occupation et a laissé la place depuis octobre 2014 à la société sud-africaine Alphamine, agréée par l'État congolais pour explorer et exploiter plus de 10 sites miniers à Walikale. La société Alphamine, indexée par ses creuseurs artisanaux de Walikale, son directeur général, M. Richard Robinson, balaye d'un revers de la main toutes ces accusations, ajoutant d'ailleurs que plus de 60 millions de dollars ont été dépensés par sa société pour les salaires de certains de ses anciens artisanaux qui travaillent aujourd'hui avec lui.
Ce n'est pas correct. La société n'a jamais proposé ou demandé le déguerpissement des creuseurs. Même depuis 2010, les coopératives se sont engagées de quitter la concession au moment de l'émission de notre permis d'exploitation. Mais il y a un effort de trouver des solutions.
La coexistence entre une exploitation artisanale et industrielle n'est pas autorisée par la loi congolaise à la matière, précise Anselme Kita, qui est ministre provincial des mines.
L'État a donné un permis d'exploitation et donc il a donné des droits miniers à la société ADM, Alpha Mine du CIE. Les creuseurs ne devraient pas coexister sur ce site-là. Il faut qu'on le précise parce que la loi le prévoit.
Sur place à Walikale, les creuseurs artisanaux et les exploitants industriels se regardent en chien défaillance depuis octobre 2014, chose qui inquiète la société civile de la région. Prince Kiangi est un membre du groupe thématique des mines au sein de la société civile au Nord Kivu.
Ce sont des milliers de gens et demander d'un coup à tous ces gens de quitter et d'aller je ne sais où. C'est vrai que la société a un permis d'exploitation aujourd'hui. C'est vrai, ce sont des zones qui produisent énormément de quantités de minerais, mais la situation des communautés est restée la même.
Le ministre des Mines se félicite aujourd'hui en termes des recettes qu'il régénère après l'avènement de la loi Dodd-Frank exigeant la traçabilité pour tous les acheteurs et vendeurs des mines.
Ces cinq dernières années, s'agissant des dernières statistiques pour ce qui est du coltan, au bout de l'année, nous avoisinons à peu près 1 million de tonnes que nous exportons.
Dans les zones d'exploitation, beaucoup reste encore à faire. Des territoires entiers restent sous-développés et très enclavés par manque de routes. Charlie Kassereka depuis Goma pour VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, nous avions Lionel Gaïma. Merci à notre technicien Patrice Lumumba et à la présentation Tatiana Mosso. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste connecté sur Facebook et sur votre site voaafrique.com pour toute l'actualité 24 heures sur 24. Restez avec nous. Bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.